On va passer donc dans la foulée à la dernière communication pour écouter Philippe qui va revenir donc sur la thématique de l'extrême droite.
Alors donc là, cette communication-là, c'est l'influence de l'extrême droite radicale en France entre provocation, mimétisme, déshérence et conviction politique. Alors en introduction, je voudrais dire quelque chose. D'abord, la provocation croix gammée chez les Français, ça a duré très peu de temps, ça n'a pas été comme en Angleterre récurrent. Et finalement, les symboles nazis, c'est plutôt la mouvance skinhead qui va les récupérer. Et je précise, parce que parfois des gens se posent la question, skinhead punk, c'est quand même pas du tout la même chose, mais on peut dire que la mouvance skinhead, c'est un satellite de la culture punk, pour plusieurs raisons. Le fait de l'antériorité, c'est-à-dire tous les premiers skinheads sont d'anciens punks. La proximité culturelle, c'est qu'en gros, ils écoutent la même musique et ils fréquentent les mêmes lieux. Et même les liens amicaux et les inimitiés, pendant longtemps, ça reste toujours dans le même cercle. Donc on peut considérer la mouvance skinhead en France comme une sous-culture du punk. La France, c'est une accélération de l'évolution britannique, en gros. Et je précise deux choses très très importantes. Au début des années 80, l'influence de l'extrême droite, elle touche donc des anciens punks qui deviennent skin. Et c'est une rébellion jeune et confuse, plus existentielle que politique. Donc il n'y a pas de fondement politique très fort chez ces jeunes. Donc c'est facile de se faire influencer. Et dans un contexte de durcissement économique, à partir du tournant de la rigueur de 83 en particulier, et d'incertitude adolescente, c'est un âge où on ne sait pas trop où on va. Alors ma première partie, c'est 1978-1981, ce que j'appelle les années provo, provocation donc, avec un grand A, les raisons de l'attirance du style skinhead. Pourquoi on devient skinhead ? En 78, on devient skinhead à cause de la musique, parce qu'on trouve que les premiers groupes qui écoutent les skins en Angleterre, comme Shine 69, c'est bien. Le look plus uniforme, qui est perçu par des jeunes qui viennent plutôt de classe populaire, comme plus propre que celui des punks. L'attitude agressive et fière, et pour certains, le côté plus masculin. Mon grand B, c'est les caractéristiques des premiers skinheads français. Et une des caractéristiques très fortes pour les premiers skinheads français, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait français. En fait, ils sont français, ils ont la nationalité française, mais par exemple, pour celui qu'on considère comme étant le premier, Farid est d'origine algérienne. Albert était juif séfarade, et Fan, par exemple, était eurasien. Et il y a d'autres cas. Une appartenance aux classes populaires, je l'ai dit, souvent des familles monoparentales, ou des jeunes en rupture de banc, c'est-à-dire qui n'habitent plus chez leurs parents, ou qui rentrent que dormir, qui sont en gros jamais là, qui n'ont plus de lien très fort avec leurs parents et l'autorité parentale. Et donc, l'exemple que je connais le mieux, c'est la première bande, la bande de Colombes, qu'on a appelée Skinhead des Halles, puisque c'est là qu'ils traînaient. Grand C, la provocation, comment et envers qui ? Alors, la provocation, comment ? Bah, en gros, les premières provocations, c'est des saluts nazis. Et envers qui ? Envers le passant, quand on est dans la rue, n'importe qui. Celui qu'on considère comme bourgeois, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, la perception à cet âge-là peut parfois être floue. Et puis provoquer le punk des centres-villes, c'est-à-dire que tous ces premiers skins viennent au départ de Colombes, en région parisienne. Et pour eux, le punk de Paris, il est déjà socialement plus élevé qu'eux, donc il faut le provoquer. Il est mieux loti qu'eux. Et grander la provocation, pourquoi ? Bah pour faire peur, évidemment. Aussi pour être plus provocateur que les punks. Genre, on va être plus punk que les punks. On va vraiment toucher le point extrême. On peut expliquer aussi, ça c'est pas comme ça qu'eux-mêmes se l'expliquaient à l'époque, mais avec le recul, la frustration et le mal-être adolescent, le mimétisme par rapport à la Grande-Bretagne, c'est une évidence. Et, j'y mets plein de guillemets, mais quand même, le sens de l'humour. C'est-à-dire que pour eux, faire des saluts nazis devant n'importe qui, c'est de la rigolade. Et puis il y a quand même, dès cette époque-là, dans cette première partie, une tentative de récupération politique de la Fédération d'Action Nationale et Européenne, la FAN, qui était un groupuscule néo-nazi. Et en fait, les skins des Halles, ils ont essayé de les récupérer d'abord sur la base de « chez nous, c'est la discipline, c'est la force », pour en faire un peu leur chair à canon, c'est-à-dire aller se battre à leur place, puisque la FAN était plutôt des petits bourgeois. Et même s'il y a eu une proximité géographique et quelques bières bues ensemble, on peut dire que ça n'a pas vraiment été un succès, cette... Deuxième partie, 1982-1984, premier discours raciste, xénophobe et anticommuniste. Grand A, l'évolution des caractéristiques. À mesure que la mouvance skinhead française grandit, ses origines sociales s'élargissent également. Mais on retrouve une constante, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours des skinheads avec des origines étrangères. Grand B, le contexte précis de 1982, parce que c'est vraiment là que se situe la bascule, il va y avoir les premiers skinheads qui se revendiquent vraiment d'extrême droite, fascistes et nazis, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, il n'y avait que de la provocation. Et ça suit quand même immédiatement les premières apparitions médiatiques du Front National, qui avant ne franchissait pas la frontière des médias. Et puis également, le tournant de la rigueur, je rappelle donc que c'est souvent des jeunes qui viennent de milieux populaires, et donc forcément leurs parents, la plupart du temps, votaient à gauche, et il y a une espèce de déception vis-à-vis de la gauche de gouvernement qui ne respecte pas les engagements sur lesquels elle a été élue. Grand C, une expression confuse. Au départ, ça, c'est une revendication nationaliste. Nous sommes nationalistes. Alors, il y avait la mode de se coudre le blason tricolore sur le bomber. Des sentiments xénophobes et des saluts nazis. Il n'y a pas de discours politique construit et argumenté. Au mieux, il répète à peu près ce que dit Le Pen à la télé en moins structuré. Et puis, toujours la persistance du mimétisme par rapport à la Grande-Bretagne. Et il y a aussi le cas quand même de plein de jeunes qui se sont fait dépasser par leur propre provocation. C'est-à-dire qu'au départ, ils font des saluts nazis par provocation, mais c'est tous les jours. Et finalement, quand on ne traîne qu'avec des gens qui font comme soi, on se perçoit de soi-même qu'on est nazi. Expression également d'une crise adolescente extrême et prolongée. Extrême parce que nazi. Prolongée parce que ça peut durer jusqu'à parfois 25 ans. Il y en a quand même beaucoup en général qui, après ces âges-là, sont sortis de ce genre de choses. Grandez les lieux et les formes de cette expression. C'est d'abord les disques. Il y a des groupes nationalistes ou qui se disent anticommunistes. Donc, il y a Tolbiac Toads avec un morceau qui s'appelle Il n'y a plus de Français. Brutal Combat avec un morceau qui s'appelle Péril Rouge. Skin Corps avec un morceau qui s'appelle Skin de France. Les très jeunes skinheads de Boot Boys qui font un fanzine qui, à l'époque, qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge Skinhead. Et d'autres groupes. Il y a trois cas particuliers que je cite. Il y a le cas de RAS, qui est un groupe dans lequel il y avait des punks et des skins, et qui se définissent dans ce milieu-là comme anti-nationalistes. Il y a le cas de Comintern Sect, qui écrit, au moment où ils sont punks, ils écrivent un morceau qui s'appelle France, et qui est vraiment une rigolade, sauf qu'ils ne voient pas leur public devenir de plus en plus skinhead et ne pas du tout rigoler, et ils n'ont pas la présence d'esprit, le courage, ça, bon, je leur laisse la responsabilité, mais de s'opposer à leur public, quoi qu'ils se sépareront, parce qu'ils en ont complètement marre d'avoir ce public au bout d'un moment. Et le cas aussi particulier de l'infanterie sauvage, où c'est seulement le chanteur Geno qui dérive, très petit à petit, et finalement, il provoque la séparation du groupe. Les lieux, c'est les embrouilles dans les concerts, évidemment, les punks, les skins qui attaquent des punks, les bastons dans la rue, mais ça reste toujours dans le milieu, les bastons, c'est dans ce milieu, c'est-à-dire contre des punks ou même entre skins. Et puis, l'apparition et l'affirmation des skinheads nationalistes au sein du COP de Boulogne, donc le coin au Parc des Princes, supporter extrême du PSG. À partir de 82, ça devient quand même très skin. Et troisième partie, 84-89, c'est la dernière partie, une hégémonie d'extrême droite radicale de la scène skinhead. Grand A, le contexte. Il y a une grande médiatisation du phénomène. En 87, il y a le premier reportage télévisé qui s'appelle « Les crânes rasés ». Puis il y a des magazines comme par exemple « L'événement du jeudi » qui fait énormément de couvertures ou d'articles là-dessus. Et je pense que ça a un rôle essentiel dans l'extension et peut-être même la radicalisation du mouvement. Des gamins influençables un peu perdus qui voient ça à la télé, qui disent « Ah ben ça, c'est mon truc ». Alors que peut-être ils n'auraient pas rencontré ça s'ils ne l'avaient pas vraiment vu de manière aussi massive. Grand B, une radicalité exponentielle dans les textes. Je vais vous en citer quelques-uns. Brutal Combat, Charles Martel et Indo-Européen. Evil Skin, une force, une cause, un combat. Ou Zyklon Army, ou Croire combattre, obéir. Totenkopf, une œuvre française, mort au Maghreb. Black Bunyul, conquérant de l'Europe. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Alléluia, le Führer est de retour. J'en passe, et des pas très bonnes. Et puis, grand C, tentative de structuration politique. Alors, il y a des tentatives surtout par un personnage qui s'appelle Serge Ayoub, alias Batskin, qui d'abord crée une bande censée être politisée qui s'appelle Le Clan, qui ensuite essaye de politiser le COP de Boulogne au Parc des Princes sous le nom de Pitbull COP. Et ensuite, encore un peu plus tard, un groupuscule, parti Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, qui se présentera à des élections locales sans grand succès. Bref, il y a Gaël Baudilis qui fait un label de musique rebelle européen, mais c'est vraiment la politique qui prime par rapport à la musique. Et Olivier Devalaise, dit Todd, et Richard Sauvage, dit Richie. Il va y avoir deux fanzines qui émanent d'eux, Bras tendus et Rebelle Blanc. Ça se passe de commentaires. Une tentative de scène Rock Against Communism sur le modèle de Grande-Bretagne, en France. Encore plus petite, évidemment, qu'en Grande-Bretagne. Et une multitude de fanzines qui mêlent la musique skinhead et la politique nazie. Et globalement, on peut parler quand même d'un grand échec, c'est-à-dire que Ça a pris de la place, mais finalement, ils n'ont quand même pas réussi à se structurer énormément. Et puis, il y a l'implication de beaucoup d'individus dans des services d'ordre du Front National qui a toujours su utiliser de la chair à canon, entre guillemets, comme ça, et en même temps se départir de leur image pour ne pas avoir de problème avec les médias. Il y a l'adhésion à des groupuscules radicaux, comme les faisceaux nationalistes européens, parti nationaliste français et européen, et le mouvement nationaliste révolutionnaire et troisième voie. Et il faut bien noter que dans 80% des cas, les jeunes gens skinheads qui vont s'engager dans ces groupuscules vont être virés pour indiscipline. Comme quoi, en gros, skinhead rue et militantisme politique, ça marche pas très bien. La bascule qu'on peut noter, c'est que finalement, au départ, on va avoir des passionnés de musique en déshérence qui se tournent vers des idéologies extrêmes. Philippe Buffon, qui a signé justement ce premier reportage sur le groupe Evolskin en 87 pour la télé, a écrit récemment « J'ai suivi pendant une quinzaine de jours des jeunes hooligans se réclamant du national-socialisme. En fait, c'était de pauvres voyous désœuvrés. » Et puis après, il y a une évolution, c'est que c'est en fait plutôt des voyous politisés qui vont endosser l'appellation et l'uniforme skinhead pour militer dans ce milieu. Et la violence aussi, elle change de milieu. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que précédemment, dans d'autres années, la violence des skins, elle restait dans le milieu punk et skin. Et là, par contre, à la fin des années 80, on a plus de violence des skinheads qui se retournent vers les immigrés et les enfants d'immigrés. Et j'arrive à ma conclusion. À partir des années 90 et 2000, fin 80, 2000, avec les tendances Redskin et Sharp, skinhead antiraciste, on va assister petit à petit à un renouvellement de cette scène qui devient aujourd'hui bien plus fréquentable. Et puis il va y avoir la désertion des anciens skinheads, c'est-à-dire soit l'âge qui va faire qu'ils vont se rendre compte que en fait c'était une déshérence et qu'ils vont devenir des repentis sincères. Je pense qu'il y a aussi beaucoup qui s'estimaient nazis, fascistes à l'époque et qui deviennent en gros de simples réactionnaires, comme il y en a tant aujourd'hui en France. Et il y a ce que j'appelle les fachos à la retraite, c'est-à-dire ceux qui, en gros, sont toujours fascistes aujourd'hui, mais en gros, ils n'ont plus l'uniforme, ils ne parlent plus de politique, ils ne font pas de militantisme, ils ne cognent personne, mais dans la tête, c'est toujours pareil. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Merci pour ce tableau haut en couleur, avec des noms de chefs qu'on a côtoyés, qu'on a croisés, qu'on a reçus. Petite indication tout de même, c'est qu'il y a quand même eu des morts hein, dans cette affaire. Il y a eu des gens qui ont été assassinés, en marge des défilés du Front National, il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a eu un skin qui est mort aussi, qui a été tué par un punk dans la bande de
Ah oui, Turlute.
Voilà. Donc il y a eu des agressions caractérisées et des gens qui... Voilà, plus un blessé, évidemment, avec Sniff dans Evil Skin. Ouais,
donc en chaise roulante.
Mais pour dire que c'était une affaire quand même très sérieuse, très dangereuse, et on se demande ce que faisaient les renseignements généraux à l'époque pour voir des labels comme Rebelles Européens à Brest, donc de Gaël Baudis, sortir tout le catalogue qu'il a pu sortir. Et le vendre et le diffuser. Donc, il y a que des interrogations à se poser sur le... Alors, on va. J'entends Luc. On va essayer de faire vite. Si vous avez des remarques, des interrogations, Voto d'abord.
On peut rajouter la chanson des Olivenstein sur Darlan pour la rigolade.
Donc, il parle de la chanson des Olivenstein, Pétain, Darlan, c'était le bon temps. Sauf que là, c'est uniquement de la provocation. Enfin, il n'y a rien d'autre que de la provocation, quand même.
Et comme tu le disais, les médias ont joué un énorme rôle aussi dans la
diffusion. Je pense qu'ils ont joué un rôle énorme dans l'extension et la radicalisation, voilà. Oui.
On va stopper ici, hein, Solveig. Et on invite tout le monde à manger. Il y a un buffet et on continuera la discussion en haut.